Des armes stratégiques iraniennes utilisées par les forces de la résistance ont empêché les ennemis de pouvoir réaliser leurs objectifs, a dit le ministre iranien de la Défense, le général Amir Hatami. En Syrie, des terroristes ont tendu une embuscade à des bus circulant sur une autoroute dans le centre du pays. 9 personnes, dont une fille de 13 ans, ont été tuées. Et la France va très probablement réduire les effectifs de sa force Barkhane au Sahel. C'était les principaux titres, en voici le journal. Des armes stratégiques iraniennes utilisées par les forces de la résistance ont empêché les ennemis de pouvoir réaliser leurs objectifs, a affirmé le ministre iranien de la Défense, le général Amir Hatami, lors d'une cérémonie commémorative à l'occasion du premier anniversaire de la mort en martyr du général Rassem Soleimani à l'Académie militaire Imam Hossein. Le ministre de la Défense a affirmé que la présence de l'Iran dans la région n'est certainement pas au goût des ennemis qui y cherchent évidemment leurs propres intérêts. Les ennemis ont créé des groupes terroristes en Asie de l'Ouest afin d'atteindre certains objectifs, mais la présence stratégique de l'Iran les a empêchés de le faire, a indiqué le général Hatami. L'ordre hégémonique a mis en œuvre toutes ses potentialités scientifiques, financières et en armement en appui aux terroristes afin de pousser cette région vers un démembrement et ce, pour assurer la sécurité du régime sioniste. Malgré tous ces efforts, des armes stratégiques iraniennes dont ont fait usage les forces de la résistance ont empêché que les ennemis puissent parvenir à leurs objectifs. Le général Hatami a par la suite affirmé qu'un nouveau chapitre s'était ouvert au sein du ministère de la Défense en vue de suivre les idées du martyr Soleimani en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme takfiriste. Que les auteurs de l'assassinat du général Soleimani sachent que son sang sera vengé. La grande vengeance se réalisera par le retrait des forces américaines de la région. Mais les commanditaires et les auteurs de ce crime ne pourront échapper à la vengeance. Dans la capitale irakienne Bagdad, une grande foule de gens s'est précipitée dimanche matin, 3 janvier, vers la place Tahrir afin de participer à la cérémonie de commémoration ayant lieu à l'occasion du premier anniversaire de la mort en martyr du général Soleimani et d'Abu Mahdi al-Mohandes. La place Tahrir ne se vidait pas dimanche des manifestants qui demandaient à haute voix, à travers leur slogan, le retrait des occupants américains de leur pays et la mise en application de la résolution du Parlement irakien à ce sujet. Les participants à ce grandiose rassemblement intitulé « Martyrs et souveraineté » ont rendu hommage aux deux commandants martyrs de la résistance, Rassem Soleimani et Abu Mahdi al-Mohandes, qui étaient lâchement assassinés le 3 janvier 2020 par les forces américaines près de l'aéroport de Bagdad. Un grand nombre d'habitants d'Amerli, de Tal Afar et de la plaine de Ninive étaient aussi venus ce dimanche à Bagdad, place Tahrir, signe de renouveler l'allégeance avec les commandants martyrs de la résistance. Sur les images montrant les manifestants réunis place Tahrir, se voient assis beaucoup d'Yézidis, de Turkmènes et de Chabakis de Tal Afar, ainsi que des citoyens chrétiens habitant la plaine de Ninive. Des terroristes ont tendu une embuscade à des bus circulant sur une autoroute dans le centre de la Syrie dimanche soir. 9 personnes, dont une fille de 13 ans, ont été tuées. C'est la deuxième embuscade de cette semaine qui vise les bus circulant entre les zones contrôlées par le gouvernement syrien. Le groupe terroriste Daesh est tenu pour responsable de cette attaque. Mercredi dernier, une attaque de Daesh s'est soldée par la mort de 30 personnes, dont la plupart étaient des soldats qui rentraient chez eux pour les vacances. Les terroristes Daesh sont toujours actifs dans les zones désertiques du sud et du centre de la Syrie, malgré leur défaite de l'année dernière. Des responsables locaux ont déclaré que Daesh serait à l'origine de l'attaque de ce dimanche. Par ailleurs, le site d'information syrien Rojava Network a signalé une puissante explosion près de la base des forces aérospatiales russes située dans le sud de la ville de Ramishli. Selon certains rapports, des hélicoptères Mi-24N de l'armée russe ont décollé de la base de Ramishli pour une opération spéciale anti-Daesh dans le désert. Suite au décès de 5 soldats français en l'espace de 3 jours, le gouvernement français envisage de réduire le nombre de soldats déployés au Sahel pour assurer la mission de la force Barkhane. nous serons très probablement amenés à ajuster ce dispositif. Un renfort, par définition, c'est temporaire, a dit la ministre française de la Défense, Florence Parly, dans une interview au quotidien Le Parisien. Après le renfort de 600 soldats qui apportaient les effectifs de Barkhane à 5100 hommes en 2020. Une décision sera prise à l'occasion du prochain sommet conjoint de la France et des pays du G5 Sahel en février à N'Djamena, a ajouté Florence Parly. Trois soldats français ont été tués lundi dernier dans une attaque à l'engin explosif artisanal revendiqué par le GSIM et deux autres samedi dans des circonstances similaires. Les cinq soldats ont été tués alors qu'ils circulaient dans des VPL, des véhicules blindés légers de conception vétuste. La ministre a de nouveau exclu toute négociation avec des groupes terroristes comme Al-Qaïda ou Daesh qui assassinent de manière aveugle et ont du sang sur les mains. Mais la porte est ouverte pour des gens qui ont déposé les armes et qui ne sont pas motivés par une idéologie radicale et criminelle, a-t-elle relevé. Ils doivent se rallier aux accords de paix d'Alger de 2015, a-t-elle ajouté. Le Soudan, l'Égypte et l'Éthiopie ont repris dimanche leurs négociations au sujet du grand barrage controversé sur le Nil construit par Addis Abeba et convenu de les poursuivre dans les prochaines semaines, a indiqué le ministère soudanais de l'Irrigation. Les derniers pourparlers qui se sont tenus par visioconférence début novembre s'étaient conclus sans avancée, les négociations étant dans l'impasse depuis plusieurs mois. Le Caire, mais aussi Khartoum en aval du fleuve, souhaite un accord légalement contraignant, notamment sur la gestion du barrage et le remplissage du réservoir. Addis Abeba, qui juge le grand barrage de la Renaissance essentiel à son développement, y est réticente et soutient que l'approvisionnement en eau de ces pays ne sera pas affecté. Dimanche, des représentants des trois pays ont tenu de nouvelles discussions par visioconférence en présence de responsables d'Afrique du Sud, pays qui assure la présidence tournante de l'Union africaine, et d'observateurs internationaux. Il a été conclu que la semaine prochaine serait dédiée à des discussions bilatérales entre les trois pays, des experts et des observateurs, a indiqué le ministère soudanais de l'Irrigation et de l'Eau dans un communiqué. Ces discussions devraient ouvrir la voie à la reprise des négociations tripartites dimanche 10 janvier avec l'espoir qu'elles se concluent fin janvier, a-t-il ajouté. Et pour fermer le journal, le vice-premier ministre russe Alexandre Novak a assuré que le projet de gazoduc Nord Stream 2 serait mené à son terme grâce au soutien des pays et des entreprises européens, et ce, malgré les sanctions imposées par les États-Unis. Le projet Nord Stream 2, qui relie la Russie à l'Allemagne en passant par le fond de la mer Baltique, sera bel et bien terminé grâce au soutien des partenaires européens, a fait savoir le vice-premier ministre russe Alexandre Novak le lundi 4 janvier sur la chaîne RBK. Le projet fait l'objet d'un panel de sanctions de la part des États-Unis, lesquelles seront davantage étendues en 2021. Le 1er janvier, le Sénat américain a voté en faveur du budget de défense pour l'année fiscale 2021, lequel prévoit l'extension des sanctions contre le Nord Stream 2, notamment aux entreprises qui fournissent des services d'essai, d'inspection ou de certification. Une décision qui contourne le veto de Donald Trump, qui s'était opposé à certaines dispositions spécifiques du budget. Le Kremlin a reconnu que les sanctions pourraient créer de nouveaux problèmes, mais reste décidé à trouver une solution. La construction du gazoduc a repris en décembre 2020 avec la pause des conduites dans les eaux allemandes. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. « 700 km de portée, Zolfarar de Nasrallah fera noyer Israël. » Peu après le tweet du ministre iranien des Affaires étrangères mettant en garde le président sortant US contre un possible coup israélien propre à allumer la mèche d'une guerre mondiale, le ministre israélien de l'Énergie s'est précipité, quelque peu déconcentré, à démentir. C'est Israël qui devra s'inquiéter des menaces iraniennes. Mais le démenti est pire qu'un aveu. Au fait, au stade où en est le régime israélien, une guerre USA-Iran l'arrangerait à merveille, vu qu'à chaque minute qui passe, Tel Aviv ressent davantage son incapacité organique à jouer le rôle que lui a réparti l'Amérique, à savoir piloter la cohorte d'acolytes des USA en Asie centrale sur fond d'un géant US au pied d'argile qui s'en retire. Les chroniqueurs militaires israéliens reviennent sans cesse sur cette archi-révélation de Nasrallah concernant la taille de l'arsenal de missiles tactiques de la résistance quand il a affirmé au journaliste Al-Mayadin avoir multiplié par deux en 2020 le nombre de ces missiles de précision, remettant ainsi en cause le fondement même de la campagne dite « guerre dans la guerre » dont le mythe de succès a été longtemps vendu aux colons. L'entretien de Nasrallah à Al-Mayadin comporte un double message. D'abord, le succès du mouvement à surmonter la pandémie et à élargir son arsenal, et ensuite le fait qu'il n'existe plus aucun endroit en Israël qui puisse échapper à des frappes aux missiles du Hezbollah, ce qui veut dire qu'aussi bien Haïfa et Tel Aviv que les ports du sud comme Ashkelon et Ashdod pourraient être pris pour cible. À y regarder de plus près, Nasrallah est en train de nous dire que ces missiles ne sont plus seulement de précision, mais de précision et de longue portée. C'est uniquement ce genre d'engin qui pourrait atteindre le sud d'Israël qu'on croyait être relativement à l'abri puisque les roquettes de Gaza sont moins puissantes et pas précises. Eh bien non, les choses ont visiblement changé. Les missiles tactiques de longue portée dans un environnement tel que le nôtre renvoient à des portées de 700 km. On a toute raison de croire qu'il s'agirait des missiles Zulfiqar de facture iranien dont l'ogive pèse 700 kg. L'optimisation de l'arsenal du Hezbollah aurait été donc une affaire aussi de quantité que de qualité désormais si Israël frappe la Beka, il en recevra la réponse n'importe où en Israël que le Hezbollah le souhaite, a commenté Gershon Cohen, l'ex-académicien militaire sioniste, qui ajoute « Une attaque contre l'Iran déclenchera sans nul doute la riposte du Hezbollah, lançant à Israël des défis qu'il n'est pas prêt à relever. Il y aura d'abord des vagues successives et incessantes de missiles tirés contre le front intérieur et son mur de feu fera bien déconcerter notre armée de l'air à fixer des cibles à abattre et c'est sur fond de cet état apocalyptique que les commandos du Hezbollah s'attaqueront à nos colonies du Nord pour s'en emparer et ils réussiront à le faire, car face aux missiles, nos avions ne seront pas grand-chose. Imaginez une Galilée sous occupation israélienne que nous ne ferions pas pour que cela soit libéré. Le Hezbollah nous poussera à faire d'humiliantes concessions.